Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est le discours qu'est en train de prononcer le président de la République en ce moment même sur les séparatismes, discours très attendu. Ça fait plusieurs fois qu'il est reporté, différé. On va commenter certaines de ses déclarations avec vous, avec François Momboise. Bonjour, président de la FEVAD, c'est la Fédération Européenne de la Vente à Distance. Bonjour, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, membre du Parti chrétien démocrate, bonjour à vous. Jérôme Dubus, membre de La République en marche. Et Mehdi Ouraoui, vous êtes essayiste et spécialiste du discours politique. On va parler de cela avec vous. On va parler du Covid et pourquoi un sourcil pour les grandes villes. On attend quelques jours peut-être pour préserver ce discours du président de la République. Et puis, prolongation de l'état d'urgence jusqu'à fin mars. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Patrick Mignon, c'est un hommage que vous vouliez rendre aux pompiers. J'ai pas de retour. Alors, je ne sais pas si François Momboise m'entend.
Oui, moi je vous entends.
Eh bien François, alors vous, allez-y, vous, votre coup de cœur.
Mon coup de cœur, c'était l'interview de Riz.
Oui.
Attendez, j'ai enlevé un micro.
Oui. Oui, tout à fait. Bonjour.
Alors attendez, on est avec François Momboise. Allez-y, François.
Oui, c'était un coup de cœur pour l'édito de Riz. Enfin, pas l'édito, l'interview qu'il a donné à France Inter hier, qui était une interview de tolérance. Riz, en particulier, une jolie formule. Il dit, je comprends pas que des gens qui ont eu accès à la culture n'acceptent pas les idées des autres. Il disait ça de manière extrêmement calme. C'est quand même quelqu'un qui menaçait de mort depuis je sais pas combien d'années. Il succédait à France Inter, exactement dans le même studio, un sociologue la veille qui lui a dit qu'il fallait pas débattre avec les gens avec qui on n'était pas d'accord, qui était dans une logique de fermeture. Je trouve que ça faisait du bien d'entendre Riz hier matin, calmement expliquer qu'il fallait s'écouter, dialoguer, discuter paisiblement.
Il a donné également une interview à Libération hier avec une question qu'a relevé Claude Posternak sur Twitter. Il dit la question bien dégueulasse de Libé Harris. Avant, vous dessiniez contre les pouvoirs, le patriarcat, les cathos, les flics. Aujourd'hui, on a l'impression que vous en prenez aux plus faibles sans distinction. Effectivement, cette question est pour le moins étrange, mais vous avez raison d'évoquer en tout cas cette interview qu'on peut voir sur les réseaux sociaux.
Sur le dernier point, c'est faux,
Bien sûr.
Charlie Hebdo régulièrement publie les statistiques de dessins depuis 3 ans et vraiment il tire tous les minutes.
Oui, absolument. Non, mais c'est pour ça. Donc Claude Posternak évoque une question bien dégueulasse. Patrick Mignon, votre coup de cœur. Bon, là, encore perdu. Alors, on l'a pas encore. Mehdi Ouraoui, c'est un coup de gueule.
Ben, ça rejoint un peu d'ailleurs ce que dit Riz sur l'état de la société et l'état des lumières. Il y a un philosophe, enfin un historien plus précisément d'ailleurs, israélien qui est mort il y a quelques semaines, qui parlait des anti-lumières, donc à propos de tous ces événements qu'on voit en ce moment. Et je crois qu'on est dans une époque d'anti-lumières. Il y a des chiffres qui devraient nous faire sauter au plafond. Et moi, il y a un chiffre qui m'a terrifié hier, c'était le chiffre de la baisse du niveau en maths en CM2 pour nos gamins. Pour résumer, il y a 55% des gamins qui sont en difficulté à l'issue du CM2 en mathématiques. Il y a plus d'un quart des gamins qui ne savent pas faire une soustraction. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est une soustraction à l'issue du CM2. Et je crois qu'on prend ces chiffres année après année. Alors là, c'est des chiffres qui viennent du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on ne peut pas dire que c'est un complot de PISA, parce que d'habitude, vous savez, c'est des enquêtes PISA, qui sont des enquêtes européennes. Alors, on dit, ah, mais nous, les Français, on fait différemment, etc. Machin. Mais là, ce sont des chiffres bien français, qui sont bien made in France, bien de chez nous. Et donc on regarde ces chiffres et on a pris l'habitude de les recevoir chaque année, un peu comme si c'était une espèce de marronnier d'habitude à laquelle on devrait se faire et à laquelle on devrait justement s'habituer, se résigner. Mais c'est absolument terrifiant sur... On parle d'ensauvagement en ce moment. Moi, je ne reprends pas le terme parce que je trouve que c'est un terme qui vise plutôt à exclure qu'à créer de la paix civile. Mais en tout cas, on peut craindre, il y a un risque imminent et généralisé d'abêtissement. Alors, il y a d'autres compétences. Hein. Les gamins, ils savent faire plein d'autres choses. Ils savent faire des choses que nous, on ne savait pas faire, par exemple, comme coder, comme apprendre à maîtriser d'autres techniques technologiques, etc. Mais il y a quand même un risque assez généralisé d'abêtissement général de la population. Et notamment, on voit bien dans une grande pandémie comme celle qu'on est en train de vivre, ce que le manque de culture scientifique peut provoquer en termes d'obscurantisme, en termes d'adhésion à des thèses complotistes, en termes de simplement d'incapacité à faire son devoir de citoyen et de pouvoir choisir, par exemple, sur la question du masque, sur la question de ce qu'on attend d'un gouvernement sur les vaccins, de ce qu'on attend d'un gouvernement sur la gestion sanitaire. Il y a une question citoyenne absolument majeure derrière ces chiffres de baisse du niveau des maths chez nous.
Oui. Alors c'était, on l'avait évoqué pour le lire et écrire, hein, ou en sixième, je crois qu'il y a, je me souviens plus exactement du chiffre, mais un pourcentage assez important d'élèves qui arrivent sans savoir lire ni écrire. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même sur les raisons de cette baisse de niveau. Vous avez une explication ?
Après, moi, je suis souvent critique avec ce que fait le gouvernement en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont critiquables. Mais c'est vrai que Blanquer, sur, par exemple, la baisse du nombre d'élèves dans les CP, dans le dédoublement des CP, a fait quelque chose qui était... et d'ailleurs, bon, ses prédécesseurs allaient plutôt dans le même sens. Donc, tout le monde a plutôt compris quand même qu'il fallait absolument un meilleur encadrement des gamins et plutôt en plus petit nombre sur les classes comme ça, très sensibles que sont le CP. Mais clairement, on est en train de sacrifier nos filles. Il y a un gamin qui se fait poignarder en Seine-Saint-Denis il y a 2 jours, je crois. C'était il y a 2 jours. Personne n'en parle. Le gamin se fait poignarder, je crois, en classe. Et personne n'en parle. Tous les jours, il y a des professeurs qui se font insulter. Tous les jours, il y a des professeurs qui se font gifler par des parents. Tous les jours, il y a des choses qu'on... On ne peut pas accéder dans l'école de la République.
Je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit.
Jérôme Dubus.
Si je puis me permettre, je suis assez d'accord avec le constat. Après, les conclusions sur la transmission sur l'analyse du Covid et ses conséquences, masque ou pas, vaccin ou pas, test ou pas, etc., c'est un petit peu plus, à mon avis, contestable. Mais sur le constat, je partage. D'ailleurs, Blanquer, quand il est arrivé, et un certain nombre de ministres l'avaient fait avant lui, comme Claude Allègre quand il était à l'éducation, de manière plutôt maladroite d'ailleurs, mais enfin, le fond était là, il faut en revenir au savoir de base, c'est-à-dire apprendre à compter, à lire, à écrire, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, Blanquer a mis ça comme fondamentaux, il a eu raison, ça va prendre des années, parce que la dérive actuelle de l'éducation nationale, elle date des années 70, vous savez bien, c'est l'esprit de mai 68 qui a irrigué partout dans l'éducation, pas seulement sur l'éducation d'ailleurs primaire, collège, lycée, sur l'éducation ensuite supérieure, qui a été une catastrophe. Regardez les résultats du bac cette année. Alors, c'est une année un peu spéciale.
Oui, c'est particulier.
Il y a 96% de résultats positifs. Il n'y a jamais eu autant de mentions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut
plus. Oui, mais c'est particulier cette année. Non, mais ça veut
effectivement. Pas une question de laxisme. C'est parce que pour le coup, il y a des familles qui sont des familles plutôt rigides où les gamins n'arrivent pas à suivre parce que simplement, par exemple, ce sont des familles qui n'ont pas les codes scolaires. On sait très bien que c'est une institution qui est totalement opaque et dont il faut avoir tous les codes pour savoir où orienter son gamin, dans quelle bonne classe, dans quel bon établissement, etc. En réalité, le vrai problème, c'est que l'école est désormais le déversoir de tous les problèmes de la société. C'est-à-dire, on le voit bien, on l'a vu sur la question des tenues des élèves. La question des tenues des élèves, c'est quelque chose qui se règle en famille, avec ses parents, tant qu'on n'est pas majeur, qui se dit, c'est une discussion entre des parents et des enfants. La question de la laïcité, très souvent, c'est quand même quelque chose qui est censé être discuté d'abord.
Mais indépendamment de ça, il y a un problème de contenu des savoirs qui n'est pas absolument respecté. On a mis tout un tas, moi je regarde ce que faisaient mes enfants au lycée, on leur a ajouté tout un tas de matières qui ne sont pas des matières fondamentales. Et les matières fondamentales ont été, pour le coup, négligées, faute de temps. Donc, il faut en revenir à un certain nombre. Alors, je sais que c'est assez conservateur comme discours. Il faut en revenir à un certain nombre de fondamentaux qui sont des savoirs de base sur lesquels on a parfaitement négligé les enseignements. C'est évident.
Alors, est-ce qu'on a retrouvé Patrick Mignon ?
Est-ce que vous m'entendez, Valérie ?
On vous entend très bien. Alors, bon, hommage aux pompiers.
Oui, désolé pour cet incident de connexion, oui. J'ai de la fibre, normalement ça passe bien. Oui, hommage aux pompiers, parce que, comme vous le savez, il y a une tempête prénommée Alex, oui. Qui a touché l'ouest de la France, et ces gens qui sont sur tous les fronts de manière permanente ont eu un surcroît, j'imagine, d'activité, notamment dans les zones côtières, et il faut penser à eux, parce que sans eux, notre système serait vraiment à plat. Moi, je vois très bien. Alors, je rappelle quand même que les pompiers, c'est d'abord majoritairement, ce sont des pompiers non professionnels, c'est-à-dire les pompiers volontaires. Il y a aussi des corps professionnels de pompiers, les pompiers départementaux, des SDIS, services départementaux d'incendie et de secours, et deux corps militaires, je crois, les pompiers de Paris, la BSPP, et les marins-pompiers de Marseille. Et ça, moi, je trouve qu'on s'habitue à leurs interventions, on trouve normal qu'ils soient sur tous les fronts et en cette période de météo agitée et destructrice, eh bien, je voulais juste leur rendre un hommage parce que c'est vraiment méritoire, c'est vraiment exceptionnel. Voilà.
Bah, écoutez, c'est
on s'associe à l'hommage.
Ouais, on s'associe à cet hommage évidemment parce qu'ils vont être, comme vous le dites, en première ligne. Jérôme Dubus.
Et pour des soldes et des salaires qui sont quand même pas dans le haut de la fourchette. Hein.
Non, mais ça c'est sûr. C'est vraiment... Jérôme Dubus, c'est un coup de gueule ?
Oui, alors c'est un coup de gueule sur les conclusions de la commission d'enquête qui vient de rendre son rapport concernant ce qui s'est passé, l'attentat qui a eu lieu il y a exactement un an, puisque c'était le 3 octobre 2019, à la préfecture de police de Paris. Oui. Cette commission d'enquête a fait un travail remarquable. Donc je n'attaque pas du tout, hein, ce n'est pas un coup de gueule contre la commission d'enquête, c'est un coup de gueule contre les... Ce rapport qui est absolument, je conseille à tout le monde, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, ça déflore un peu notre sujet sur le séparatisme oui. de Macron aujourd'hui. Lisez ce rapport, c'est absolument édifiant. Édifiant.
Il y a le Parisien hein, qui publie une sorte de résumé ce matin, absolument glaçant de tous ces signaux faibles qui étaient là et que personne n'a vraiment voulu relever.
Alors il y a eu des failles individuelles sur la hiérarchie qui n'a pas fonctionné. Hein. Et puis, il y a eu des failles collectives sur le fonctionnement de la préfecture de police. En tout cas, c'est ce que dit la commission d'enquête qui était présidée par Éric Ciotti, mais qui rassemblait les députés de toute tendance politique et qui a été adoptée d'ailleurs à l'unanimité. Donc, il va faire date ce rapport. Et on voit bien que la chaîne de responsabilité n'a pas été respectée. On voit bien que la neutralité du service public qui a plusieurs reprises par ce monsieur Michael Harpon a été contesté le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il a dit qu'il se félicitait de ces attentats. C'est quand même hallucinant. Tout ça, je cite un exemple, hein, mais il y en a eu plusieurs comme ça, et tout ça est resté sans sanction. C'était quand même quelqu'un qui était habilité secret défense. Donc il avait accès à un certain nombre de renseignements, il avait accès à des fichiers totalement secrets, de gens qui renseignaient la préfecture de police, et tout ceci était en sa possession. Il est quand même hallucinant que cette affaire ait duré pendant plusieurs années sans qu'il y ait eu de sanctions à l'égard de cet individu. Ça a mal fini, bien évidemment, puisque ça finit par l'attentat contre quatre collègues de la préfecture de police qui ont perdu la vie, plus lui-même, 5 personnes. On est en plein dans la neutralité du service public, et j'espère que la loi sur le projet de loi sur le séparatisme va prendre ça en compte et va prendre les conclusions et les propositions de cette commission d'enquête en compte, parce que ce qui s'est passé là est totalement hallucinant.
Alors la question est lancée sur notre sujet. Le président de la République vient d'annoncer, donc il est au bureau, je vous le rappelle, pour donner les grandes lignes de son projet de loi sur les séparatismes. Ce matin, je vois une élue vert qui dit quelle honte de parler uniquement de l'islam politique en particulier. On va y revenir. La question, c'est un projet de loi sur la laïcité sera proposé pour renforcer la laïcité. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau projet de loi quand la loi elle-même n'est pas appliquée. qui veut répondre à cette question.
La loi de 1905, elle a été remaniée 17 fois. On peut parfaitement la remanier une 18e fois. Le problème, c'est que...
Oui, mais si on commençait par appliquer déjà, François Monboise, la loi, dire. Ou faire respecter ce qui peut être la laïcité quand on voit effectivement les différentes entorses qu'il peut y avoir ici ou là, pourquoi
il faut d'abord, effectivement, appliquer...
Alors, Jérôme, je voudrais faire tourner la parole un petit peu, François Monboise.
Mais c'est pas facile parce que je crois que tout le monde sait que cette loi est faite contre le... Vous m'entendez, hein ? Je crois que tout le monde sait que cette loi est faite contre l'islam politique ou l'islamisme intégré. Je sais pas comment il faut l'appeler. Mais on peut pas avoir un intitulé de loi qui soit comme ça. Donc c'est pour ça que le gouvernement a choisi ce terme de séparatisme, même si on connaît bien le but. Mais ce que vient de dire Jérôme Dubus sur le... J'ai lu moi aussi les extraits dans Le Parisien... montre que c'est pas simple, parce que là, il n'y avait pas franchement de séparatisme avec Michael Arcon. C'est-à-dire qu'il allait au travail tous les matins, mais il y a eu des tas de signaux qui auraient dû faire qu'effectivement, qu'on s'inquiète, parce que comme ça a été très bien dit, en fait, ça a fini l'affaire Arcon, parce que lui-même est passé à l'acte. Mais sinon, on se demande combien de temps ça aurait duré. Alors, est-ce que c'est du séparatisme, Michael Arcon? Je pense pas, mais c'est ça qu'on veut combattre, et c'est extrêmement dangereux. Donc, je pense que
si c'est du séparatisme, terme,
c'est pas idéal.
Ouais, si c'est du séparatisme, on va revenir sur le terme. On va marquer une petite pause. 0826 300 300. On revient dans un instant avec vous et vos témoignages si vous souhaitez parler à l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 11h midi, les débats avec vous en direct. Le président de la République, donc, qui est en ce moment au Mureaux et qui prononce son discours sur les séparatismes. Il annonce qu'un projet de loi donc sera présenté le 9 décembre, 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905. Il veut marquer là un symbole, évidemment par un symbole assez clair dans la date. Donc les séparatismes, il a également déclaré que l'islam, qu'il fallait s'attaquer à l'islam radical, ne pas tomber dans le piège de l'amalgame. Mehdi Ourawi.
Bon, moi je crois que, comme souvent malheureusement avec Emmanuel Macron, on aura le droit un discours qui sera probablement peu suivi des faits. C'est pas une critique, c'est juste un constat. On l'a vu sur le Liban, on a vu
un peu d'espoir.
On a vu, j'ai atteint un âge désormais où je suis réaliste et que
laissez-le terminer.
Je ne crois pas toujours aux promesses du Père Noël, malheureusement. Mais je crois surtout qu'en réalité, la prise de conscience n'est pas faite et surtout que il n'y a pas de prise de conscience de ce qu'est le réel du pays. Et c'est toujours le problème un peu avec Emmanuel Macron qui a eu une vie assez dorée, qui a une vie assez déconnectée de notre réalité, de Français, c'est qu'il a une trajectoire qu'il a peut-être éloignée des réalités des Français. Et aujourd'hui, il y a une réalité dans notre pays, ça s'appelle la tenaille identitaire. C'est-à-dire qu'il y a un islam politique, un islam militant, qui est une religion dévoyée, militante, qui vise à enrégimenter une partie de la jeunesse, qui vise aussi tout simplement à diriger nos vies, et il faut dire les choses comme ça, à changer notre mode de vie collectif, à diriger politiquement le pays, ce qui n'est jamais bon pour une religion. Et puis il y a aussi une extrême droite extrêmement virulente qui se repasse le ballon en permanence avec cet islam politique. Et donc aujourd'hui, il y a deux ennemis extrêmement dangereux pour la République qui sont des alliés objectifs, c'est cet islam politique et l'extrême droite, qui prospère d'ailleurs main dans la main maintenant depuis plusieurs années. Et donc je crois que vis-à-vis des deux, il faut maintenant que la République se défende et se défende de façon extrêmement brutale. Et donc moi je pense
l'extrême droite que vous citez n'est pas en séparatisme de la société, c'est-à-dire que il n'y a pas eu.
Moi je vais être très cash avec vous. Moi je vais être très cash avec vous, Valérie. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'un imam dise à ma fille comment elle doit s'habiller. Je ne veux pas qu'un imam dise à mes enfants ce qu'ils ont droit ou non de manger. Mais je n'ai pas non plus envie, non, mais je n'ai pas non plus envie, et je le dis de façon très cash, que Éric Zemmour, hier matin, quand on se lève, quand on prend notre petit déjeuner, soit en train de vomir le fait que mes enfants, qui sont issus de l'immigration, seraient tous des violeurs, des assassins et des tueurs.
Non. Et donc, je. Alors, il parlait, pour remettre les choses un peu à leur place, il parlait des migrants, je ne cautionne pas les propos, Valérie, il parlait des migrants mineurs isolés. Il n'a pas dit tous les.
Heureusement,
non, mais j'aime pas Éric Zemmour.
Les mineurs ne sont pas isolés. Mais enfin, nous sommes des migrants de pas si lointaine souche, mais on sait bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, je veux que ces gens-là soient sanctionnés. C'est-à-dire, je pense que la République doit être brutale avec eux.
Mais on est d'accord, mais là, vous êtes en train de déplacer le problème. Il y a un problème avec l'islam politique, il y a un vrai problème avec l'islam politique. Il y a certainement un problème avec les propos extrêmes d'extrême droite, mais on ne parle pas de la même chose. On parle de gens qui font sécession avec la République. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi vous ne parlez pas du fond de ce dont parle le...
Parce que moi, je pense qu'il faut être à un moment donné très, très, très direct et très franc avec nos concitoyens.
C'est beaucoup plus grave que ça.
Quand on parle d'attentats, quand on parle de gens qui font sécession, qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la République, c'est pas le cas de l'extrême droite, même s'ils ont des positions extrêmes, c'est pas leur position. Je vais donner la parole. On va faire tourner la parole. Jérôme,
c'est beaucoup plus grave que ça, parce que ce qu'on vient d'entendre, là, cette espèce de parallélisme entre une extrême droite qui serait en sécession de la République. Moi, je ne sais pas de quelle extrême droite on parle, mais en tout cas, ce n'est pas l'extrême droite. Encore que quand on fait 25%, je me demande si on est encore extrême droite. D'ailleurs, on peut se poser la question, ça c'est un problème de politique interne. Mais en tout cas, ce n'est pas l'extrême droite qui se présente aux élections tous les jours. Ce n'est pas ça. Bon, alors on peut dire qu'il y a un séparatisme ultra-blanc qui paraît-il menace la République, je ne sais pas si c'est vrai, moi je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais en tout cas il y en a un que l'on connaît depuis des années et sur lequel tout le monde a capitulé, c'est l'islamisme radical. Je me souviens, ma première campagne c'était en 1983, c'était à Meaux en Seine-et-Marne, j'avais fait une campagne municipale, on avait découvert dans une des bars de la Pierre-Collinet, qui est un quartier difficile de Meaux, qui a été réhabilité depuis, une mosquée clandestine. C'était en 1983. Personne n'avait bougé à l'époque. Personne. Ni le préfet, ni le maire, ni le député. Personne. Bon, écoutez, c'était en 1983. On est en 2020 aujourd'hui. Tout le monde a laissé faire. Tout le monde a laissé faire. Aujourd'hui, il faut reconnaître un certain courage à Emmanuel Macron de faire un discours sur le sujet et d'essayer de légiférer.
Il faut dire les choses.
Personne ne l'avait fait auparavant.
Mais non, laissez terminer parce que c'est inaudible. C'est inaudible. Vous allez avoir la parole après.
Donnez-lui au moins le bénéfice du doute sur ce sujet. Il est le seul à vouloir faire quelque chose depuis 30 ans, depuis 40 ans. Personne n'a voulu légiférer sur ce sujet. Nicolas Sarkozy a essayé d'organiser l'islam de France. Malheureusement, ça a été un échec. C'est quand même aujourd'hui la seule religion, sans faire aucun amalgame. C'est quand même aujourd'hui la seule religion qui n'est pas organisée en France.
Alors,
toutes les autres ont des accords avec l'État.
Mais ça n'est pas le rôle de la République. Moi, je suis désolé.
Si, c'est le rôle de la République.
Le rôle de la République, c'est de s'occuper du fait que nos enfants aient des meilleurs résultats en mathématiques. Ça, c'est le rôle de la République. Moi, je ne veux pas que mes impôts. Moi, je ne veux pas que mes impôts servent à organiser des cultes. Pardon, je n'ai pas d'impôts pour ça, ça ne m'intéresse pas. Si je veux mettre mes impôts dans quelque chose qui relève de la religion, je fais un tour.
C'est pourtant la loi de...
Mais ce n'est pas le sujet. Patrick. Alors, Patrick Mignon.
Si je réussis à en placer une, parce que Mignon a eu très convaincant dans le début de son discours, mais ensuite, ça dérive. Effectivement, le problème dont on parle et que vous avez posé comme sujet, c'est les séparatismes. Que je sache, l'islam, d'ailleurs il n'y a pas d'islam politique, religieux ou autre, l'islam est un tout. C'est une théocratie, c'est incompatible avec la définition française de la République. C'est-à-dire que,
comme toutes les religions,
comme le dit M. Ouraoui à l'instant, la religion doit être séparée de la République. C'est la fameuse loi de 1905, elle s'applique dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir un islam qui intervienne au plan politique. Point. Et je n'ai, alors, je complète en plus, moi, je me considère pas du tout d'extrême droite, je suis conservateur. Mais d'ailleurs, ce qu'a dit Jérôme Dubus sur les mosquées cachées et secrètes, ça existait, ça avait même été dénoncé par Philippe de Villiers avec les mosquées de Roissy, où on avait découvert pas une, mais un certain nombre de mosquées dans les couloirs de l'aéroport et dans des souterrains.
Et ça existe encore.
Et ça existe certainement. Moi, ce que je dis, c'est la seule religion qui, effectivement, revendique une séparation et qui veut des espaces réservés aux musulmans et aux musulmanes. Et la seule religion qui soit aussi séparatiste dans son fondement, pour ce que j'en connais, eh bien, c'est l'islam. Puisque vous voulez parler cash, je parle cash aussi. Voilà.
Donc vous dites donc le président de la République, quand il dit les séparatismes, aurait dû dire le séparatisme.
Oui, oui, absolument. On met toujours, et je comprends, comme évidemment que tous les musulmans ne sont pas dans cette mouvance terroriste, islamiste, etc. Bien évidemment, et heureusement encore, sinon la terre serait à feu à sang, un peu plus qu'elle ne l'est actuellement. Mais on met des précautions verbales ou gestuelles dans tout ce qu'on dit pour ne pas heurter, ne pas choquer. Alors, je veux bien, mais ça fausse et ça affaiblit le discours. Il y a un seul séparatisme aujourd'hui, à ma connaissance, en France, c'est l'islam par rapport au reste. Aucune autre religion, que ce soit le bouddhisme, le judaïsme, le catholicisme, la chrétienté, personne ne revendique une séparation. Je rappelle même que les juifs, à l'époque sous Napoléon, ont signé la charte dont certainement s'inspire Macron aujourd'hui pour essayer de la proposer à l'Israël.
Bien sûr, mais alors, la religion musulmane est la seule qui ne soit pas organisée en France, tout le monde le sait. Et on n'arrive pas à le faire. Sarkozy a essayé, il a échoué.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir organiser la religion musulmane? Enfin, pardon, mais c'est...
Ah non, c'est pas de ça dont on parle. Mais oui, je suis désolé.
C'est ce que raconte Jérôme Dubus.
C'est pas ce que raconte, c'est la vérité.
Mais c'est pas Macron, la question, François Monbois, qu'on n'a pas entendu.
Ben oui, moi j'ai pas entendu parce que c'est pas un sujet facile.
Oui. Non, c'est pas un sujet facile. Ouais.
C'est pas un sujet facile. Ce qui a été dit sur la particularité de l'islam, moi je suis d'accord. C'est-à-dire que l'islam n'a jamais dit que ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas le cas dans les pays musulmans, sont des pays où l'islam est intégré dans la politique. Donc c'est très difficile. Je pense qu'on n'a pas de chance parce que l'islam aujourd'hui est complètement différent de l'islam il y a 50 ans. Hein, l'islam il y a 50 ans, ça passait, mais l'islam salafiste depuis quelques dizaines d'années est un islam avec lequel la discussion est extrêmement difficile. Je sais pas si vous avez lu le livre de Louisi Mohamed qui dit « Quand j'étais frère musulman », raconte que son enfance au Maroc, c'était très bien, il vient en France, et quand il retourne au Maroc, l'imam a été envoyé par les Saoudiens, et le discours a complètement changé, c'est un discours de guerre contre l'Occident. Et donc des imams comme ça en France, c'est vrai qu'il y en a sans doute, on a du mal parce que les services de renseignement ne parlent pas tous arabes, mais c'est des discours de haine, discours d'intolérance, et c'est ça qu'il faut cesser. C'est ces discours-là, mais l'islam traditionnel qu'il y avait avant, il n'y avait pas de souci. Et c'est un discours de haine qui est celui des frères musulmans. C'est ça le danger, en fait, je trouve.
Alors, je voulais vous faire réagir sur un tweet. L'islamisme est un problème identitaire, pas religieux, et l'aborder par la laïcité est une erreur. C'est pas complètement faux.
C'est-à-dire, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Je suis absolument pas d'accord là-dessus.
Pourquoi est-ce que tous ces jeunes se sont tournés, certains de ces jeunes se sont tournés vers un islam radical? C'est bien un problème aussi identitaire, de reconnaissance, de se sentir rejeté, sans je justifie pas.
Ouais. Ça a remplacé le marxisme pour moi, l'islam, ça. C'est une solution facile d'un monde meilleur, d'un système global qui permet de s'en sortir.
Oui, Mehdi.
On a le résultat aussi, qu'on le veuille ou non, de 3 années d'élitement total de la société, d'une société qui est bancarisée, où c'est de plus en plus chacun pour soi, et bah, vous connaissez la formule, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et donc, dans une société, moi je suis désolé, mais Jérôme Dubus parlait des mosquées de 83 et des mosquées clandestines. Mais prenons cet exemple. Les politiques, depuis 30 ans, n'ont pas seulement laissé faire, et c'est là que j'ai un profond désaccord avec Jérôme Dubus, c'est qu'ils ont profité de cela. Que combien d'élus de droite et de gauche ont passé un deal avec les salafistes dans les quartiers de leur ville pour gagner une élection départementale, parfois. Et donc, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir comme ça que cette classe politique a failli dans la gestion de ces quartiers, dans la gestion du fait qu'elle n'empiète pas sur la vie publique. C'est pas seulement qu'ils ont laissé faire, c'est qu'ils ont été les principaux bénéficiaires dans des deals clientélistes qui étaient des deals. Et donc, aujourd'hui, je suis désolé, mais enfin, il ne suffira pas d'agiter le chiffon vert de l'islam pour faire oublier la ghettoisation, pour faire oublier ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, le fait que nos écoles sont bah, malheureusement dans un état lamentable avec un niveau scolaire qui baisse
massivement. Mais ça, c'est deux choses différentes.
C'est autre chose, ça.
Parce que ça fait des gamins complètement perdus. Ça fait des gamins complètement paumés.
Oui, a raison. La République est un tout.
Patrick Mignon.
Mais en disant ça, ça permet d'évacuer parce que du coup, on s'attaque pas aux problèmes particuliers. Donc vous avez raison. Le problème de l'éducation, du niveau, de la comment on appelle ça, la sociologie appliquée à l'école, le pédagogisme et tout ça, ça a tout détruit. Effectivement. Ouais. Quand je me souviens de l'école à laquelle moi j'allais, ça n'a plus rien à voir et on a un niveau de sortie qui est plus le même. On a à peu près, malheureusement, deux ou trois d'entre nous, vous êtes beaucoup plus jeunes, vous, Mélie, mais nous, on a connu cette école. Et pareil, j'ai connu, moi, dans ma vie professionnelle, le Caire dans les années 76-80. Je peux vous dire que le Caire n'avait rien à envier à Paris, notamment pour la partie centrale, en termes de magasins, d'habillement des femmes, de liberté, etc. Et l'Égypte est pas la pire.
Je veux pas être pessimiste sur l'évolution de la société française, mais je suis pas sûr que la loi sur le séparatisme. D'ailleurs, le séparatisme, moi, je n'aime pas ce terme parce que je trouve que ça, c'est beaucoup plus fort ce qui se passe actuellement depuis une trentaine d'années. C'est beaucoup plus fort. C'était pas du séparatisme. C'est une volonté de combattre et c'est une volonté de suprématie. C'est différent du séparatisme. On peut vivre séparé. Après tout, ça arrive tous les jours. Des gens qui se séparent vivent séparés. Bon. Là, ce n'est pas du séparatisme. C'est une lutte à mort contre nos valeurs républicaines. Et donc, ça va beaucoup plus loin que le fait de vouloir se séparer. C'est pour ça qu'à mon avis, le terme séparatiste, ce n'est pas très bon. Mais on ne va pas
épiloguer. Et ce n'est pas seulement les valeurs républicaines, Jérôme Dubus.
Cette dérive depuis 30 ans, que l'on a constatée dans notre pays, ça va mettre des années à être dressée, ça c'est clair. Même si on est très fort sur un certain nombre de sujets, je prends le problème de la polygamie. Regardez ce qui se passe en matière de polygamie. Dans les logements sociaux, par exemple. Quand un maire attribue un logement social, il y a 2-3 personnes dans 2-3 pièces. Au bout de 6 mois, ils sont 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien ? Rien du tout. L'élu a peur. Il a peur d'appliquer la charte du bailleur social qui dit qu'il y a une suroccupation de logements.
C'est pas ça le problème.
Et des exemples comme ça, vous en avez tous les jours.
Est-ce que c'est ça le problème ?
Eh bien oui, c'est un problème. Parce que ça commence comme ça.
Mais non,
on commence par tolérer ça, et puis après on tolère tout.
Mais non, parce que justement, on s'attache à des problèmes comme ceux-là, qui sont des problèmes, qu'on le veuille ou non, assez marginaux, à la réalité de la polygamie.
Non, c'est pas du tout marginal.
Et si, la polygamie, c'est quelque chose
de marginal. La théorie du carreau cassé.
Et pendant ce temps-là, on ne s'attaque pas au réseau de financement de l'islamisme, on ne s'attaque pas au réseau d'information de l'islamisme, on ne s'attaque pas au réseau d'armement de l'islamisme.
C'est-à-dire que pendant nos alliés. Le Qatar,
oui, c'est ça, François. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, il y a une contradiction. Oui, mais il y a une contradiction profonde, effectivement. C'est-à-dire qu'on a, le sentiment. Je ne peux pas écouter le discours d'Emmanuel Macron, mais je vois des alertes qui tombent. Donc, par exemple, il dit qu'il a pris une décision qui est celle de que l'école obligatoire sera à partir de 3 ans et que l'instruction à la maison sera limitée aux problèmes de santé. Pourquoi pas ? Mais c'est comme l'histoire d'interdire les certificats de virginité. J'entendais une médecin de la maison des femmes qui dit c'est extrêmement marginal. Pourquoi on on parle de choses comme celle-là, alors qu'effectivement, le fond du problème, bah, c'est le financement de cet islam politique.
Mais parce que les deux sont liés, enfin. Si on commence à tolérer à la base un certain nombre de choses, la dérive est celle qu'on a connue.
Ce sont des gadgets.
Quand on tolère la polygamie,
sont des gadgets.
Je suis désolé, c'est une erreur. Voilà.
Ce sont des gadgets.
Alors moi, je veux bien qu'on soit d'accord avec ça.
Il faut s'attaquer à la présence.
Moi, je ne suis pas d'accord avec
l'administration. Mais non, il faut s'attaquer à la présence islamiste dans l'administration. Il faut s'attaquer à la présence étrangère sur notre territoire. Il faut s'attaquer aux complicités, parce qu'en réalité, on le voit bien en ce moment, par exemple, dans le procès Charlie Hebdo, les complices jouent un rôle absolument majeur, et donc il faut s'attaquer et alourdir les peines.
Mais non, on rentre dans le détail.
Globalement, on fait comment pour empêcher le prosélytisme ? Ce que dénonce une sociologue qui raconte qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont envoyées dans les mosquées pour les convertir, à un islam plus radical, les obliger à mettre le voile. C'est ça aussi, c'est le prosélytisme qui est en marche. Et là-dessus, en tout cas, je n'ai rien vu pour l'instant. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. On marque une petite pause, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Nous avons un auditeur, Christophe, qui est en ligne avec nous. Bonjour Christophe, pour parler donc de ce séparatisme. Vous nous appelez de Marseille, c'est ça ?
De Marseille, c'est ça, oui.
Ouais.
Ben, en fait, j'avais une petite anecdote qui allait dans le sens du séparatisme. Il y a 2 ans de ça, ma fille, la dernière, est à l'école maternelle. Et comme chaque jour, je lui demande ce qu'elle a mangé à la cantine. Et ce jour-là, elle me dit, j'ai pas beaucoup mangé, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, je lui demande qu'est-ce qu'elle va manger. Elle me dit des lentilles saucisses, et j'ai compris que, voilà, c'était par rapport aux petits musulmans de sa classe, qui ne lui parlaient pas parce qu'elle mangeait la saucisse de porc. Donc j'ai été choqué, j'ai appelé la maîtresse, et voilà. Donc, elle avait 5 ans. Moi, ce qui me choque, c'est que, à cet âge, on endoctrine déjà les enfants. Et ça, c'est un cas concret, c'est pas ce qu'on voit sur Internet, c'est vraiment du concret. Donc, moi, j'ai mes idées qui me sont propres. En aucun cas, je vais dire à mes enfants, tu ne parles pas à un musulman, tu ne parles pas avec lui parce qu'il mange halal. Et je m'aperçois, et en plus, les parents, ce n'étaient pas des salafistes ou des extrémistes. Ce sont des gens comme vous et moi. Ouais. Et c'est ça qui est encore plus choquant. Parce que je me dis, la religion prend vraiment le pas déjà de tout petit. Je suis ici de quartier populaire, mais ça n'existait pas à mon époque, cette histoire. Si vous avez une petite seconde, j'ai une autre anecdote pour un de mes garçons, cette fois, qui était dans une autre école. Alors lui, il avait 8 ans. Il parle avec, je vais dire, un petit musulman, parce que pour faire la différence. Il parle avec un petit musulman, c'est son copain. Il voyait passer un autre collègue à eux. Mon fils lui demande si ça va, comment ça va, qu'est-ce que tu fais et tout. Et l'autre petit lui dit, mais tu lui parles à lui ? Alors mon fils, bêtement, il lui dit, pourquoi ? Parce qu'il joue dans un autre club de foot. Il dit, non, c'est un juif, à 8 ans. C'est le quotidien, ça. Ça n'arrive pas une fois tous les 10 ans. C'est au quotidien qu'on a des anecdotes comme ça. Je ne sais pas ce que va faire Monsieur Macron. Mais bon, le problème, il ne date pas d'hier.
Non, il ne date pas d'hier. Et ce que vous décrivez, c'est que c'était extrêmement prégnant dans la société. On voit qu'effectivement, je crois que c'est à Rungis, il y a une majorité. Merci beaucoup, Christophe, de votre témoignage. Majorité aujourd'hui de boucherie halal, que à l'hôpital, parfois, c'est de la nourriture halal qui est servie. Est-ce que c'est ça, le séparatisme ? Je vous pose la question.
Mais pour moi, c'est de l'intolérance, François, là. Je reboucle avec François ce que Montbois. Disait Doris le matin. C'est de l'intolérance. C'est-à-dire que c'est ne pas supporter des gens différents, ne pas leur parler, ça qui est terrible.
Oui, mais c'est de l'intolérance à cause de la religion. C'est pas de l'intolérance parce que c'est la religion qui est prégnante et qui est là.
Ce matin, Valérie, vous avez vu Libé, il y a une féministe qui explique dans Libé qu'elle hait tous les hommes. Alice Coffin a dit ce matin qu'elle n'écoutait pas de musique classique quand c'était de la musique faite par des hommes. Enfin, pour moi, c'est pareil. Absolument. C'est-à-dire que c'est de la haine des autres, de ne pas supporter la différence, de ne pas pouvoir se parler, c'est hallucinant.
Mais est-ce que vous le placez sur le même niveau qui veut Patrick Mignon ?
Non, mais l'auditeur a confirmé ce que je vous disais tout à l'heure.
Alors, Jérôme Dubus.
L'auditeur a confirmé ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est-à-dire dans les gestes du quotidien. J'ai parlé tout à l'heure de la polygamie, mais j'en ai parlé aussi des écoles qui aujourd'hui viennent d'être fermées enfin, après des années d'enseignement, en Seine-Saint-Denis, qui étaient des écoles associatives salafistes, qui enseignaient dans l'illégalité la plus totale le Coran, une certaine forme du Coran d'ailleurs, très, très conservatrice, bien évidemment, et ça a duré pendant des années. Ça a duré pendant des années. Tout le monde le savait. Tous les quartiers le savaient.
Je vais faire plaisir à Jérôme Dubur.
Ça a duré pendant des années.
C'est
à la base des attaques systématiques contre les valeurs de la République. On ne peut pas, effectivement, au sommet, lutter également. C'est une espèce de tenaille. C'est à la fois le sommet et la base.
Ce que vient de dire Christophe, votre auditeur, est tout à fait juste, notamment pour sa fille. Ça montre bien, et c'est ce que je voulais faire plaisir à Jérôme Dubu, quoi que ce n'est pas fréquent, c'est simplement qu'il a raison, ce n'est pas du séparatisme, c'est de la domination. C'est-à-dire qu'il y a prosélytisme d'un côté, guerre territoriale, tentative de domination et de prise totale de contrôle. C'est tout. C'est pas je sépare un petit bout pour être tranquille et que la République vienne plus me dire comment je dois faire dans ma mosquée ou dans les trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est de la suprématie. Voilà. Ouais. On va régenter la totalité de la société française, que ça s'appelle République. D'ailleurs, ça ne s'appellera plus République une fois que ce sera fait. La République est un système comme un autre. Hein. Il y a la théocratie, la République, la démocratie, la monarchie, tout ça, ce sont des systèmes qui sont essayés dans le monde. Nous, on en a un qui est pas forcément le meilleur, comme a dit un auteur, la démocratie est un mauvais système, mais c'est le meilleur qu'on ait. Eh bien, voilà. Et très clairement, oui, merci. Très clairement, la suprématie, le suprémacisme islamique est dangereux pour notre démocratie, pas seulement la République qui n'est qu'une forme de cette démocratie.
Oui. Jean Messia, c'est juste un tweet de Jean Messia, bon, qui est au Rassemblement national, qui dit « Macron veut créer un islam des Lumières. Donc l'islam de France jusqu'à présent, dit-il, a été obscurité et obscurantisme. Cool, on avance. Et il veut surveiller le financement. Donc c'est ce qu'il a dit ce matin en créant une entité. Et Jean Messia dit « Mince, elle existe déjà, c'est Tracfin. Macron découvre l'eau chaude. » Pardon, Mehdi Ouraoui,
vous vouliez... Non, mais oui, bon, en fait, à un moment donné, il faut aussi séparer deux choses. C'est-à-dire qu'on peut jouer à se faire peur, à utiliser des grands mots, voilà, bon... on peut aussi regarder un peu le réel. Le réel, c'est quoi? C'est que, effectivement, dans le quotidien, il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables. Ce que nous a raconté Christophe est évident et marqué du coin du bon sens. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois, etc. Donc, et c'est pas très compliqué. Eh ben, un gamin qui est de religion musulmane ou d'origine maghrébine, etc., qui dit je veux pas jouer avec un tel parce que c'est un juif. Alors, parfois, c'est d'autres mots, hein. C'est pas seulement un juif, c'est des mots qui sont beaucoup plus graves. C'est pareil pour le racisme anti-noir, c'est pareil, qui est très présent aussi chez beaucoup de gamins originaires du Maghreb. Bon, quand ces propos-là sont tenus, c'est exactement comme pour un gamin français qui dirait je veux pas jouer avec ce petit arabe, etc. Moi, ça m'arrive d'être victime de racisme anti-arabe, ça m'arrive de plus en plus souvent, malheureusement, dans cette époque bizarre, dans ces cas-là, il faut mettre un mot sur les choses. Ça s'appelle du racisme. Et on peut s'appeler Jean-Jacques comme on peut s'appeler Mohamed. Si on est raciste, on est raciste, point. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire des différences entre.
Mehdi, je pense que vous réagissez sur le. J'ai envie de dire le nez collé à la feuille. Si on prend un petit peu de recul, l'islam politique, le but de l'islam politique, c'est l'entrisme. C'est d'arriver dans la société, c'est d'arriver dans
bien
la
sûr,
politique
bien sûr.
Par
mais,
le biais
mais
de la société.
Mais évidemment. Et le but de l'islam politique, c'est effectivement de diriger le pays. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est comme, oui, non, mais ça, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut, pardon. Mais enfin, les mecs, se cachent pas beaucoup. Le problème qu'on a, juste pour finir sur ce point, c'est que, alors, on peut se focaliser effectivement sur l'islam politique, on doit le combattre extrêmement brutalement. Moi, je l'ai dit, et j'ai dit quelles étaient les solutions radicales auxquelles moi j'adhérais. En revanche, ce n'est pas fait, et je ne fais pas confiance à Emmanuel Macron pour le faire. Et je ne fais pas confiance à Emmanuel Macron pour le faire parce qu'il n'a pas ni la détermination ni la crédibilité pour le faire. Mais deuxièmement, le problème que nous avons, et on est obligé à un moment donné de redescendre un peu en pression des uns et des autres, c'est quand même que personne, en réalité, dans ce pays où
les gens quand même passent leur journée désormais à se détester les uns les autres, personne, aucun politique, et ça c'est un constat qu'il faut quand même faire, n'est capable de nous emmener collectivement vers quelque chose de positif. Je suis désolé, mais enfin, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, ni Jean-Luc Mélenchon, ni aucun des aujourd'hui des têtes d'affiche. Mais non, c'est très. Mais non, mais pardon. Mais non, mais pardon, j'en ai
vu.
Je suis désolé. On peut se résigner à ce que la France se délite avec des gens qui se détestent les uns les autres. Enfin, on peut aussi vouloir que les Français s'aiment bien les uns les autres. C'est bon.
Jean Messia a totalement tort sur ce qu'il a dit avec son tweet que Valérie vous a donné. C'est qu'au contraire, il faut organiser des rapports entre la République et la religion musulmane. On a 7 ou 8 millions.
Mais il ne dit pas le contraire. Il dit ce que disait son tweet, c'est que s'il y avait une volonté politique de lutter contre l'islam politique, on commencerait par le financement.
Et d'ailleurs, si on n'organise pas les liens entre la République et la religion musulmane d'une certaine
manière,
de manière continuelle, on aura de manière continuelle ces problèmes de financement des mosquées, ces problèmes de financement des associations, des financements qui viennent de l'étranger. Donc c'est ça qu'il faut organiser, et pour le moment, je ne vois pas grand-chose.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de parler du Covid. On verra lundi ce qui va se passer. Certains disent qu'hier, il y a eu un tempo un peu ralenti, justement, pour ne pas brouiller ce discours d'Emmanuel Macron en annonçant la fermeture des restaurants. On va voir ce qui va se passer lundi. On aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite, André Bercoff, merci. Merci à vous et on se retrouve lundi. Très bon week-end.